En quête de cinéma, lundi 1er juin, il y a beaucoup de réverbération car ma chambre est de plus en plus vide étant donné que prochainement je déménage. Je devais déménager avant le confinement et finalement je déménage pendant le déconfinement. En quête de cinéma, on va parler très peu de cinéma, mais quand même un petit peu. La dernière mission était beaucoup mélancolique. C'était sûrement dû à la solitude d'un confiné. Mais bon, la mélancolie, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je vais me permettre par commencer par une chanson très mélancolique qui est tirée d'un film de Bélatar, Damnation. Une très belle séquence en noir et blanc, dans un bar sombre. Une femme chante. Pendant que des hommes accoudés au bar boivent dans une forme de tristesse, belle et obscure. C'est un plan séquence, la caméra bouge tout en douceur. On voit les visages à peine des ombres qui recouvrent ces visages. Il est question de solitude, pourtant il y a beaucoup de monde. Être seul, avec des autres à côté de soi, c'est peut-être pas la même solitude.
Mindennek vége, vége már, s nem lesz másik, nem lesz jó, soha már, soha talán. Rémkép az egész, talán, hogy honnan lesz út, hogy honnan jön el, ha jön, vagy nem jön el. Soha már, soha talán. Ez van, ezt kell szeretni. Most már mit lehet tenni? Torkodra tőle is vele van a lélek. Neki lelkesülnek a dolgok.
Nélkül nélküle minden kopár, vele meg teljes és boldog. Hogy lenne vége?
Il y a une chose essentielle que je tiens à dire parce qu'elle vaut pour tout et m'a protégé toute ma vie des vrais grands dérapages ou des vrais grands naufrages. Une chose qui m'a permis de nager comme Thomas l'Obscur de Blanchot, jamais au milieu de la piscine, mais c'est un sentiment de protection que j'ai eu tout petit, comme quoi chaque expérience appartient dans l'absolu à celui qui l'a vécu. Personne ne la lui enlèvera. Que cette expérience soit nulle ou passionnante, elle est inaliénable. Même lorsqu'il m'est arrivé de ne rien faire d'intéressant, ce sentiment ne m'a pas quitté. Je ne vivais pas les mêmes expériences que d'autres, au même moment. L'essentiel est de préserver la richesse de cette expérience, de ne pas la dévaloriser, c'est notre seul bien. Et si on est profondément persuadé, cela nous épargne l'envie, la jalousie, le racisme, le fascisme, toutes choses qui rendent la vie impossible à beaucoup. C'est une citation de Serge Danet. Alors, en quête de cinéma, émission en déconfinement, après l'émission précédente qui était une émission en confinement. Malgré le déconfinement, on n'a toujours pas accès au studio de Radio Galère, puisque l'émission est diffusée sur Radio Galère 88.4 à 21h30, les lundis premiers, tous les deux mois. Et donc, ça sera lundi 2 juin. On est lundi 2 juin, du moins pas tout à fait. Donc, c'est une émission où il n'y aura pas de montage. C'est une sorte de direct. Et dans la première émission, j'avais demandé à des amis cinéastes de m'envoyer des formes de témoignages qu'ils pouvaient me faire sur ce qu'ils étaient en train de vivre, sur ce que ça pouvait raconter de eux, raconter du cinéma et raconter d'autres choses. Et ces témoignages, j'ai pas pu les mettre dans la première émission tous, et donc je vais en faire écouter quelques bouts. Et c'est aussi pour cette raison, entre autres, que je refais une émission, on va dire, déconfinée. Voilà. Et donc là, c'est un témoignage de Eric. Bonne écoute à vous.
Je trouve qu'un témoignage personnel n'a que peu de sens et un intérêt très restreint. Je crois que, comme pour tout artiste, le sens réside peut-être dans les œuvres que nous produisons. J'imagine que, comme pour tout autre artiste, la situation existentielle n'est pas si mauvaise. Nous sommes sûrement des confinés, des reclus, des solitaires. Nous accueillons probablement ces temps comme une volonté de chance, une occasion unique de nous concentrer, nous discipliner, d'exercer la patience pour créer, pour aimer. Je me relis et du coup, j'arrête de parler pour un « nous ». Et mon petit « moi » n'a pas de parole personnelle à produire sur sa petite situation, pas si mauvaise. Après, au-delà de ça, il y a le monde, l'humanité et les autres. Et dès lors, quoi faire de ces sentiments, l'angoisse, le deuil, la colère. Je ne suis pas capable de les mettre en mots. Pas plus qu'il me paraît juste d'expliciter les grandes craintes, les immenses espoirs que génère l'après. Je préfère me taire et faire des images et des sons, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a nécessité d'écouter, de regarder, de lire, de réfléchir, parce qu'il y a responsabilité. J'arrête là avec mes mots, mais je veux en faire entendre d'autres. Parce qu'avant d'être un virus, Corona était un poème écrit par Paul Celan en allemand. Au lendemain de la guerre, Paul Celan a sciemment choisi d'écrire sa poésie en allemand, dans la langue pervertie par les nazis. Nazi qui venait d'assassiner ses parents, son peuple. Corona est donc, avant toute autre chose, un poème de Paul Celan. Il l'écrit pour une femme aimée, la poétesse et romancière autrichienne Ingeborg Bachmann. Leur amour est grand, grand et impossible. Impossible surtout parce que le père d'Ingeborg Bachmann est un nazi, mais qu'il a aimé et protégé sa fille encore jeune durant les années de guerre. Voici ce poème lu par l'auteur lui-même, puis lu dans une traduction de Henri Alexis Batch.
Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten, wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
Corona. L'automne mange sa feuille dans ma main. Nous sommes amis. Nous écoquillons le temps hors des noix. Et nous lui apprenons à partir. Le temps retourne à la coquille. Dans le miroir, c'est dimanche. Dans le rêve, on dort. La bouche dit vrai. Mon œil descend jusqu'au sexe de l'aimé. Nous nous regardons, nous nous disons des choses obscures. Nous nous aimons comme le pavot et la mémoire. Nous dormons comme le vin dans les coquillages, comme la mer dans le rayon sanglant de la lune. Nous sommes enlacés à la fenêtre. Il nous voit depuis la rue. Il est temps que l'on sache. Il est temps que la pierre se décide à fleurir, que l'agitation batte un cœur. Il est temps qu'il soit temps. Il est temps.
Les images sont des forces qui n'appartiennent à personne et qui traversent virtuellement les corps et les esprits de n'importe qui pour reconfigurer notre rapport au réel, a fortiori quand ce réel est lui-même le lieu d'une crise politique. Voilà, c'était la voix d'Eric et j'ai voulu lire une citation pour faire un peu de montage de Sabounian D. Pendant le confinement, ça a été l'anniversaire de la mort d'un groupe qui n'a pas existé pendant longtemps, Joy Division, et j'avais envie de mettre un morceau que j'aime beaucoup et qui est assez facile à reconnaître. Tear us apart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? C'est encore un peu tôt pour le savoir, comment chacun et chacune l'a un peu vécu, comment chacun et chacune a pu se concentrer ou n'a pas pu se concentrer Moi, personnellement, j'ai eu du mal à me concentrer. Je l'ai plutôt vécu l'épreuve comme quelque chose d'assez éprouvant, une sorte de douleur et puis aussi une colère due à une forme de d'être privé d'une certaine liberté sans trop savoir à quel endroit cette privation de liberté éviterait la mort de certains ou certaines personnes plus fragiles. J'ai du mal à savoir, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le savoir. C'est aussi un peu trop tôt pour savoir ce qu'a été le cinéma à ce moment-là. Je pense qu'on va sûrement voir des objets, des films, des tentatives au présent. Qu'est-ce qu'elles nous raconteront? J'en ai vu quelques-unes. J'ai pas encore été plus touché que ça. On va en parler un petit peu. Un ami, Baptiste, a fait une série qu'il appelle ça le journal d'un confiné. Ça s'appelle Les Escargots, on peut trouver ça sur vidéo.entopie.org. J'ai pas plus d'informations pour le trouver, mais sinon vous pouvez m'écrire à mon mail ou lotivol, lotivol@yahoo.com. Bien que, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute cette émission en général, mais on verra. En tout cas, c'est une série en 8 épisodes, je crois. Il est en train de finir le dernier épisode qui sera en période de déconfinement. C'est l'histoire de deux escargots, Corona et Virus. Il a trouvé en début de confinement deux escargots dans un panier de légumes qu'il a ramené chez lui. Et à travers ces deux escargots, il a raconté un peu leur histoire. Il a aménagé un espace de vie pour eux, qu'il a fait évoluer, qu'il a construit, qu'il a détruit, il les a perdus, il les a retrouvés. Et à travers l'histoire de Corona et Virus, qui est le nom des escargots, si je me souviens bien, il a raconté son rapport au monde. La question du politique est très présente dans toute cette série. Voilà ce qu'il en écrit comme synopsis. Il était une fois sur une île, sur laquelle vivaient deux escargots, sous le joug d'un propriétaire tout-puissant. Ça suffit, se dirent-ils un beau jour. Mais que pouvons-nous faire, pauvres escargots, contre sa toute-puissance? Partons à la recherche de compagnons qui nous aideront à trouver comment faire. Alors ils prirent les voiles vers de nouveaux horizons, prêts à affronter toutes sortes de dangers et à traverser toutes sortes de contrées, des plus diaboliques aux plus féeriques. Des images, ouais, j'en ai vu pas mal. Je vous conseille de voir cette série qui se situe à un autre endroit encore, en 8 épisodes. Et je pense qu'on a passé, pour beaucoup de gens, on a passé beaucoup de temps sur Internet. Peut-être certains ou certaines personnes en ont passé moins de temps. Peut-être qu'en ville, on y a passé plus de temps, puisque c'était un peu plus dur de s'échapper. J'ai vu beaucoup d'images qui étaient faites des fenêtres, et c'était assez intéressant, parce que des fenêtres. Y a tout un imaginaire qui se construit. Le cadre de la fenêtre. D'ailleurs, dans une caméra 16 mm, puis dans d'autres caméras, on parle aussi de la fenêtre, là où on met la bobine. Et donc, oui, j'ai vu beaucoup d'images des fenêtres, et il y avait des choses qui étaient assez chouettes. Et ce cadre-là donnait vraiment de l'espace à l'imaginaire. Et c'est vrai qu'en ce temps où confinement, même si maintenant on n'est plus confiné et on va y arriver au déconfinement, eh ben la contrainte, le cadre, l'enfermement créé des espaces d'imaginaire. Je crois que j'avais jamais autant rêvé, ou alors plutôt je m'étais jamais autant souvenu de mes rêves, comme si c'était nécessaire de me souvenir de mes rêves pour nourrir mon réel, quoi. Mais par contre, la question du désir était très très faible, quoi. Comme si désir et cinéma, y avait besoin de l'autre, comme je disais dans la première émission. L'autre manquait beaucoup. Et l'autre, pour moi, c'est le cinéma. Alors, il y a une amie qui s'appelle Alma, qui nous a envoyé une lecture de Jean-Claude Bailly. Ça parle un peu de l'image. J'ai trouvé qu'elle était belle à écouter. Et je vous la fais écouter.
Jean-Christophe Bailly, Le versant animal. Toute vie est une pensée, mais une pensée plus ou moins obscure, comme la vie elle-même, flottant. Chapitre 1. J'aimerais qu'une caméra se pose, sache se poser sur cette petite route montante. Une caméra qui saurait faire cela, filmer une voiture qui file dans la nuit et me suive. C'est un de ces moments où les rapports, entre la conscience et la campagne, entre la vitesse d'un point mobile qui s'y déplace et l'étendue, se configurent en une pointe. La route devient comme un estuaire que l'on remonte. De chaque côté, les haies, éclairées par les phares, forment des parois blanches. Même si l'on ne va pas vite, il y a une sensation cinématique pure, d'avancée irréversible, de fuite en avant, de glissade. C'est alors à celui qui conduit autant qu'au passager qui est offerte cette sensation de passivité, cette hypnose du ruban qui, peut-être, n'est pas sans danger. Mais cette fois, on est seul et, il faut le dire, il ne s'agit pas d'un voyage, rien qu'un déplacement de quelques kilomètres, une simple visite à un ami voisin. Le paysage est donc familier, la route connue. Les bois épais et les prés qu'elle traverse, on en connaît les lisières, les grands traits, les chemins. Et pourtant, du seul fait que c'est la nuit, il y a ce léger décalage, ce léger mais profond feulement d'inconnu. C'est comme si l'on glissait à la surface d'un monde métamorphosé, empli de frayeurs, de mouvements effarés, d'écarts silencieux. Or voici que de ce monde, quelqu'un surgit, un fantôme, une bête, car seule une bête peut surgir ainsi. C'est un chevreuil qui a débouché d'une lisière et qui, affolé, remonte la route dont les haies le contraignent. Il est lui aussi pris dans l'estuaire, il s'y enfonce et tel qu'il est, ne peut qu'être frayeur et beauté, grâce frémissante, légèreté. On le suit en ayant ralenti, on voit sa croupe qui monte et descend avec ses bancs, sa danse. Une sorte de poursuite s'instaure, où le but n'est pas, surtout pas, de rejoindre, mais simplement de suivre. Et comme cette course dure plus longtemps qu'on aurait pu le penser, plusieurs centaines de mètres, une joie vient, étrange, enfantine, ou peut-être archaïque. Puis enfin, un autre chemin s'ouvre à lui et le chevreuil, après une infime hésitation, s'y engouffre et disparaît. Rien d'autre, rien que l'espace de cette course, rien que cet instant furtif et malgré tout banal. Bien d'autres fois, et sur des terres plus lointaines, j'ai vu des bêtes sortir de la nuit. Mais cette fois-là, j'en fus retournée, saisie. La séquence avait eu la netteté, la violence d'une image de rêve. Était-ce dû à une certaine qualité de définition de cette image et donc à un concours de circonstances ou à une disposition de mon esprit, je ne saurais le dire, mais ce fut comme si de mes yeux, à cet instant, dans la longueur de cet instant, j'avais touché à quelque chose du monde animal. Touché, oui, touché des yeux, alors que c'est l'impossibilité même. En aucune façon je n'avais pénétré ce monde, au contraire, c'est bien plutôt comme si son étrangeté s'était à nouveau déclarée, comme si j'avais justement été admis à voir en un instant ce dont, comme être humain, je serais toujours exclu, soit cet espace sans nom et son projet dans lequel librement l'animal fraye, soit cette autre façon d'être au monde dont tant de penseurs, à travers les âges, ont fait une toile de fond pour mieux pouvoir spécifier le règne de l'homme, alors qu'il m'a toujours semblé qu'elle devait être pensée pour elle-même comme une autre tenue, un autre élan et tout simplement une autre modalité de l'être. Or, ce qui m'est arrivé cette nuit-là et qui sur l'instant m'a ému jusqu'aux larmes, c'était à la fois comme une pensée et comme une preuve. C'était la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. Le chevreuil était dans sa nuit et moi dans la mienne, et nous y étions seuls l'un et l'autre. Mais dans l'intervalle de cette poursuite, ce que j'avais touché, justement, j'en suis sûre, c'était cette autre nuit, cette nuit sienne venue à moi, non pas versée, mais accordée en instant. cet instant donc qui donnait sur un autre monde. Une vision, et rien qu'une vision, le pur jaillit d'une bête hors des taillis, mais plus nette qu'aucune pensée. Peut-être n'est-ce aussi qu'une sorte de vignette, en fait, je le voudrais bien, et tout en grisaille, comme celle qu'il y a dans les anciennes éditions de Peter Ibbetson. Mais c'est la vérité dont, parlant des animaux, je voulais partir.
Et moi, je voulais faire écouter ce texte lu par Alma qui parlait des animaux. À Marseille, là où j'habite, il y a le parc Longchamp, qui est un des plus grands parcs où il y a des arbres, parce qu'à Marseille, il n'y a pas beaucoup de nature et il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et dans ce parc Longchamp, qui était avant un parc zoologique, maintenant qui ne l'est plus, il y a toujours les cages et dedans, ils ont mis des animaux en plastique. Et dans ce parc Longchamp, il y a des chevaux, quoi. Et pendant le confinement, les chevaux, les poneys ont eu tout le parc pour eux pendant tout le confinement. Et je pense que ils avaient un grand plaisir à galoper. Ce que me racontait mon voisin d'en face, Olivier, qui allait souvent au parc Longchamp, quoi. Et pendant ce confinement, je crois que c'était ça en ville qui était le plus surprenant et le plus agréable. C'était le fait qu'il n'y avait plus de voiture, il n'y avait plus de déplacement. C'était complètement silencieux. On a beaucoup parlé qu'on revoyait beaucoup plus le ciel, que la pollution avait beaucoup diminué. Et toutes ces choses-là étaient vraiment les choses très surprenantes qu'en ville on a senties profondément. Alors je parlais des images qui étaient faites des fenêtres, mais il y a eu d'autres expériences qui ont été vécues. Pendant ce confinement, j'ai échangé avec un ami qui fait un travail de thèse sur la réalité virtuelle. Et c'est un cinéaste et il s'intéresse un peu à savoir comment la réalité virtuelle va prendre en compte le cinéma ou alors comment le cinéma va prendre en compte la réalité virtuelle. Et je me souviens qu'une fois je l'ai appelé, je voulais l'appeler par Facebook, chose que je faisais jamais, où on se voit en train de se parler. Comme c'était le confinement, ben, je pense que c'était pour moi un peu plus important de pouvoir voir la personne à qui je parlais, quoi. Et quand je l'ai connecté sur Facebook, il est apparu avec ses gros lunettes de réalité virtuelle et je lui ai demandé, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et il m'a raconté en fait qu'il revenait d'un festival, de 3 jours de festival. C'était un festival cinéma et réalité virtuelle qui, comme il y avait le confinement, ce festival n'avait pas pu avoir lieu. Alors ils avaient choisi une ville au hasard, c'était Laval. Ils avaient créé des formes d'avatar pour chaque participant et s'étaient retrouvés à 3000 à Laval. Alors je lui dis, mais comment ça se passait concrètement? Ben, il me disait, ben, il y avait comme un festival classique. On avait des projections, il y avait des débats, il y avait des apéros, on pouvait se promener dans la ville. Et il me dit, et à un moment, je suis sorti du festival, j'avais envie d'aller me fumer une cigarette. Donc j'étais sur la plage, me fumer une cigarette. Je me suis assis sur la plage, j'ai regardé la mer. Et à un moment, j'ai entendu une voix qui m'appelait derrière. Et je me suis retourné, en fait, c'était mon voisin de palier à Paris, quoi. Et on se retrouvait là, avec nos corps, et plutôt nos avatars, sous forme de réalité virtuelle. En fait, il me racontait que pendant ce confinement, il a beaucoup voyagé, quoi. Que comme il est tunisien, il a souvent été en Tunisie, essayer de voir son pays. Et il me disait que la réalité virtuelle en période de confinement a été un bon moyen pour s'expérimenter et que sûrement ça lui a donné des ailes à la réalité virtuelle et que sûrement elle va encore plus prendre de la place et que lui, il se posait pas la question morale de savoir si c'était bien ou si c'était pas bien. En tout cas, il disait que c'était quelque chose qui avait à des endroits un certain charme et qui, dans ce confinement, lui a apporté de la relation humaine, même si c'est un autre registre de relation humaine. Ça lui a apporté du rapport à l'autre. Et que ben, dans la réalité virtuelle, lui, il s'altérait beaucoup. Il devenait beaucoup un autre. Mais qu'il a croisé pas mal de personnes qui finalement sont à l'identique dans la vie réelle que dans la réalité virtuelle. Alors comment le cinéma va être imprégné de la réalité virtuelle ou l'inverse? Ça, c'est une grosse question. Je sais que j'avais regardé un film dit documentaire en réalité virtuelle et c'était assez étrange parce que je m'étais retrouvé en Afrique, au milieu d'un village, et que le point de vue que j'avais, c'est en vue qu'on voit à 360 degrés, j'étais le feu. J'étais au milieu du feu et je voyais les gens manger. J'avais pas beaucoup apprécié ça, j'avais plutôt été mal à l'aise. Il y avait un peu un sentiment d'un point où on voit tout et puis on n'est pas vu. Ça fait penser au panoptique de Bethlehem que Foucault a beaucoup repris. Et voilà, je sais pas ce que ça peut devenir, mais à la fois je pense que c'est à prendre en compte, c'est des outils de maintenant et des outils qui vont prendre de la place dans ce qui est à venir. Et le cinéma, bah, il va le prendre en compte. Je ne sais pas comment. On va revenir à nos fenêtres, parce que j'ai reçu une vidéo. Alors, c'est plus difficile de faire écouter une vidéo, mais enfin, on va quand même l'entendre, puisque Estelle, qui a fait la vidéo, parle un peu sur cette vidéo. Elle filme de sa fenêtre, et elle nous raconte des choses. Et bah, par moments, je vous dirai quelques plans qu'on voit, quand sa voix s'arrêtera.
Je voulais pas faire d'image parce qu'en ce moment je suis en train d'écrire et puis finalement je vais t'envoyer quelques plans. Voilà, je suis à Paris dans le 18e arrondissement, mon appartement. En train d'écrire un souvenir d'enfance. Soudain, par collision, apparaît le visage de ma mère, tout ridé, 84 ans, isolée, sans lien social, dans son appartement en banlieue. Le soir, à 20h, les voisins au balcon applaudissent les soignants. Soudain, dans la rue, un migrant, Afghans, Soudanais ou Syriens s'avancent en titubant et crient « Vive la France !» Larmes et colère. J'ai relu quelques textes de Michaud, là, de « La nuit remue » et nous autres. Dans notre vie, rien n'a jamais été droit, droit comme nous. Dans notre vie, rien ne s'est consommé à fond, comme pour nous. Le triomphe, le parachèvement, non, non, ça n'est pas pour nous. Mais prendre le vide entre ses mains, chasser le lièvre, rencontrer l'ours, courageusement frapper l'ours, toucher le rhinocéros, être dépouillé de tout, mis à suer son propre cœur, rejeté au désert, obligé d'y refaire son cheptel, un os par-ci, une dent par-là, plus loin une corne. Ça, c'est pour nous. Dire que les sept vaches grasses naissent en ce moment. Elles naissent, mais ce n'est pas nous qui les trairons. Les quatre chevaux ailés viennent de naître. Ils sont nés, ils ne rêvent que de voler. On a peine à les retenir, ça ira presque aux astres, ces bêtes-là. Mais ce n'est pas nous qui y serons portés. Pour nous, les chemins de taupe, de courtillère. De plus, nous sommes arrivés aux portes de la ville qui compte. Nous y sommes, il n'y a pas de doute, c'est elle, c'est bien elle. Ce que nous avons souffert pour arriver et pour partir, se désenlacer lentement, en fraude, des bras de l'arrière. Mais ce n'est pas nous qui entrerons, ce sont de jeunes matuvus, tout verts, tout fiers, qui entreront. Mais nous n'entrerons pas. Nous n'irons pas plus loin, stop, pas plus loin. Entrer, chanter, triompher, non, non, ça n'est pas pour nous. 1932.
La vidéo a été faite le 5 avril. Et puis elle des images 15 jours après. Une femme qui peint sur son balcon. Il y a du soleil. C'est le milieu de l'après-midi, on dirait. Une ambulance en contre-plongée qui vient chercher une personne qu'on dirait âgée. On la met sur le brancard. Les ambulanciers ont leurs masques. Elle semble très fatiguée. Cette personne âgée, on ne sait pas trop où. Le plan dure. Et puis des ouvriers sur un toit, en train de travailler. On est le 20 avril. Ils ont des masques. Comme si pour certains, le travail ne s'était pas arrêté. Il y a eu beaucoup de télétravail pendant ce confinement, mais il y a aussi des gens qui ont continué à faire leur travail. Un travail de labeur. Le ciel est bleu, l'image est douce, on est sur les toits de Paris. Aujourd'hui on est donc à peu près vers le 2 juin, ça va faire à peu près, on va dire, un peu plus de 15 jours que nous sommes déconfinés. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce déconfinement, tout en parlant un peu de cinéma? On pourrait dire que la vie continue. La vie a repris. Et ça, en disant ça, ça me fait penser à un film magnifique de Abbas Kiarostami. Et la vie continue. Il y a eu un grand tremblement de terre en Iran. De nombreux morts. Et l'on voit un personnage qui est aussi le réalisateur, qui part chercher deux jeunes avec qui il avait tourné dans son film précédent, et dont il a appris qu'ils habitaient, que le village dans lequel ils habitaient s'était complètement effondré. On suit la déambulation de ce personnage avec son fils dans sa voiture. Ça nous fait penser à ce qu'on a écouté tout à l'heure de Jean-Claude Bailly. C'est très cinématographique. Et au fur et à mesure du film, on voit que la vie reprend. On pourrait dire comme si de rien n'était, mais pourtant, la vie reprend. Et vers la fin, on voit des gens, des jeunes, des moins jeunes, s'activer de façon très pressante pour installer une antenne, parce qu'ils veulent regarder la finale de la Coupe du Monde de foot. Et là, le réalisateur, conducteur, personnage principal, est un peu perturbé de les voir s'affairer à regarder le match de foot alors qu'il y a encore tant de décombres à enlever pour peut-être retrouver des hommes ou des femmes qui sont encore en vie. Et il pose la question à ces jeunes qui s'activent. Et la réponse qu'il donne, c'est « La vie continue. La vie doit continuer. » Alors à Marseille, la vie a repris, elle a repris même de façon assez brusque. Il y a des belles choses, entre guillemets. Moi je sais pas, c'est des belles choses. Les plages sont interdites, mais les gens vont se baigner. Ils ont l'air de faire attention, de garder une certaine distance. Mais à la fois, comment leur interdire de se baigner, alors que pendant un mois et demi, un peu plus, on a été confinés. J'ai pris les transports en commun, parce que j'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Et dans les transports en commun, c'était assez perturbant et assez choquant de voir que j'avais plus accès au visage des gens. La foule est un peu anonyme. On voit un peu juste le regard et on voit que en ayant juste accès au regard, on est beaucoup plus distant des gens, comme si le visage c'était un tableau et on pouvait se raconter des choses sur la personne qu'on regardait sans trop savoir si c'était vrai ou faux ce qu'on se racontait. Mais on pouvait se raconter des choses. Là, juste avec un regard, c'est comme si c'était plus dur de faire fonctionner l'imaginaire. Alors peut-être que c'est mieux, j'arrive pas à savoir. Mais quoi qu'il arrive, ces masques, dans ces transports en commun, c'était quand même une image un peu violente. La vie a repris, le déconfinement va assez vite. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que toutes ces places publiques, qui pendant le confinement étaient complètement vides de personnes. Les seules personnes qui peuplaient ces places publiques, c'était un peu, et c'était même beaucoup, les personnes qu'on exclut, qu'on met à la marge, à qui on rend la vie difficile, les personnes qu'on nomme les fous, les migrants, les alcooliques. Chaque place publique de Marseille, c'était chez eux, c'était à eux. Il n'y avait personne d'autre. Ils pouvaient y faire ce qu'ils voulaient. Ils s'organisaient à leur manière. Et il y avait un beau climat qui y restait, qui traînait, qui se passait. Et là, avec le déconfinement, on les a virés, on a nettoyé les places, on les a éjectés. Et le commun des mortels, monsieur et madame normal, moi et d'autres, on est venus réhabiter ces places. Et eux, maintenant, ils sont passés d'un statut d'hypervisible à, de nouveau, un statut un peu d'invisible. Alors, un peu de musique, parce que le temps, malgré tout, doit être bon. En tout cas, je me dis que même si le temps n'est pas bon, je préfère me raconter et ressentir que le temps est bon. Alors on dira que le temps est beau ou qu'on essaie de faire en sorte que le temps est bon. Bien qu'on sait que ce n'est pas que ça. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de discussions assez conflictuelles sur la question de c'est bon d'être en confinement ou c'est pas bon d'être en confinement. Et je crois que ben, il n'y a pas trop de réponses à ça. Alors là, on va écouter un choix qu'a fait Nathalie de nous envoyer et de nous conseiller d'écouter la voix du dernier film de Jean-Marie Straub, La France contre les robots. C'est un texte de Bernardos qui dure quelques minutes et elle voulait qu'on l'écoute. Alors je vous souhaite une bonne petite et courte écoute.
Le mot de révolution n'est pas pour nous Français un mot vague. Nous savons que la révolution est une rupture. La révolution est un absolu. Il n'y a pas de révolution modérée. Il n'y a pas de révolution dirigée, comme on dit l'économie dirigée. Celle que nous annonçons se fera contre le système actuel tout entier. Ou elle ne se fera pas. Si nous pensions que ce système est capable de se réformer, qu'il peut rompre de lui-même le cours de sa fatale évolution vers la dictature, la dictature de l'argent, de la race, de la classe ou de la nation, nous nous refuserions certainement à courir le risque d'une explosion capable de détruire des choses précieuses qui ne se reconstruiront qu'avec beaucoup de temps, de persévérance, de désintéressement et d'amour. Mais le système ne changera pas le cours de son évolution pour la bonne raison qu'il n'évolue déjà plus. Il s'organise seulement en vue de durer encore un moment, de survivre. Loin de prétendre résoudre ses propres contradictions, d'ailleurs probablement insolubles, il paraît de plus en plus disposé à les imposer par la force, grâce à une réglementation chaque jour plus minutieuse et plus stricte des activités particulières, faite au nom d'une espèce de socialisme d'État, forme démocratique de la dictature. Chaque jour, en effet, nous apporte la preuve que la période idéologique est depuis longtemps dépassée. À New York, comme à Moscou ou à Londres, nous voyons la démocratie impériale anglaise, la démocratie plutocratique américaine et l'empire marxiste des dominions soviétiques, sinon marcher la main dans la main, il s'en faut du moins poursuivre le même but, c'est-à-dire maintenir coûte que coûte, fût-ce en ayant l'air de le combattre, le système à l'intérieur duquel ils ont tous acquis richesse et puissance. Car à la fin du compte, la Russie n'a pas moins tiré profit du système capitaliste que l'Amérique ou l'Angleterre. Elle y a joué le rôle classique du parlementaire qui fait fortune dans l'opposition. Bref, les régimes jadis opposés par l'idéologie sont maintenant étroitement unis par la technique. Un monde gagné pour la technique qui est perdu pour la liberté.
Voilà, c'était le court-métrage de Jean-Marie Straub. Il est un peu plus long, j'ai fait écouter juste un petit bout de la voix. Il a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, il dure 10 minutes. Il est facile d'accès, il s'appelle La France contre les robots. Ça fait beaucoup penser à Anders, ce texte qu'on a entendu. Ou cette réflexion, ça fait penser à son livre en deux tomes, L'obsolescence de l'homme. Voilà, ben je vous conseille de le voir, par curiosité, de voir le film de ce grand bonhomme du cinéma, qui continue à faire des films à 80 ans, voire peut-être à plus, qui est encore vivant, bien que vivant. J'imagine qu'il va ne pas l'être pendant encore longtemps, en tout cas je l'espère pour lui, parce que vieillir, c'est pas une chose qui, en soi, est très agréable. Et quand on voit ce qui s'est passé à toutes les personnes considérées comme des personnes âgées, pendant ce coronavirus, Ça rend un peu triste quand même. Allez, je remets une petite musique parce qu'on arrive à la fin de l'émission, bien qu'on n'y ait pas encore tout à fait.
Well, I never been hurt before, but my baby just walked out the door. She said she don't love me, she said she don't need me no more.
C'était Sylvester Stewart, Help Me With My Broken Heart. Bon, on n'a pas tant que ça parlé de cinéma comme la dernière fois. Ben écoutez, c'est un peu comme ça. Parce que du cinéma, ben, c'est encore dur de savoir, comme je disais tout à l'heure, ce qui a été. Il y a des choses qui se sont faites. Moi, je trouvais que c'était dur de filmer parce qu'il y avait du désir qui n'était pas forcément là. Bien que j'ai essayé de filmer. Et puis, ben, de toute façon, la vie continue. Les tournages sont de nouveau autorisés. On peut de nouveau se déplacer comme si de rien n'avait été. Comment le cinéma sera marqué de cette histoire? Je ne sais pas s'il sera marqué. On verra ça plus tard. Comment la vie et le monde sera marqué de ce moment-là? Ben, je ne sais pas trop. J'aurais envie d'être optimiste et pourtant je suis plutôt pessimiste. J'aurais envie d'avoir de l'espoir, mais j'ai l'impression que il ne faut pas trop espérer, bien qu'il est nécessaire de continuer à lutter. Pendant ce confinement, il y a eu des festivals qui se sont transformés en festivals sur Internet. Et je sais que ça a été des moments assez douloureux pour des amis dont les films sont sortis à ce moment-là. Ça a été très dur parce que ce sont des films qui prennent du temps, qui sont faits avec très peu de moyens, qui n'ont pas une grande visibilité puisqu'ils tournent principalement dans des festivals. Et le fait que là, les festivals se soient maintenus en passant par Internet, bah, ça a cassé la possibilité de vie des films. Et ça a aussi abîmé pas mal les cinéastes, en tout cas les quelques-uns et quelques-unes cinéastes avec qui j'ai parlé ont souffert un peu de vivre la sortie de leurs films comme ça. J'ai des amis qui ont même décidé de ne pas sortir leurs films et d'attendre peut-être 6 mois, d'attendre 1 an. Quand est-ce que les salles de cinéma vont rouvrir? Je ne sais pas, à Marseille, le Vidéodrome, il va en savoir un peu plus. Là, on est le 2 juin, théoriquement, notre chef de notre état de merde va nous en dire un peu plus sur ce qui est possible. Est-ce qu'on va aller au cinéma avec des masques? Donc je pense qu'on n'ira pas au cinéma. Est-ce qu'on va aller au cinéma en ayant 3 places d'écart entre chacun et chacune? Mais je pense qu'on n'ira toujours pas au cinéma. Peut-être que le cinéma plein air va se développer. Ça pourrait être une chouette chose, à savoir quelles seront les normes, les contraintes. J'ai un ami qui m'a dit qu'il n'allait pas se déconfiner tout de suite, parce que lui, de se déconfiner tout en restant à distance des gens, en mettant les masques, etc., etc., ça, il n'en avait pas envie, il trouvait que c'était trop violent. À Marseille, il y a un chouette lieu qui s'appelle le Polygone Étoilé, que beaucoup connaissent de façon relative, le beaucoup. Et il avait fait un week-end frénétique, qui est un peu une petite semaine asymétrique. La semaine asymétrique, c'est un événement qui fait depuis plus de 10 ans, où des cinéastes se retrouvent et se mélangent au public pour regarder des films et essayer de discuter dessus, d'avoir une parole qui soit chouette, intéressante, désirante. Et là, le Polygone Étoilé a décidé, dès que cela sera possible, donc pour le moment, ça serait fin août, début septembre, d'organiser un week-end frénétique autour de cette histoire de ces films qui n'ont pas pu exister pendant ce confinement. Et aussi d'élargir sur la question des films qui en général sont empêchés, parce que c'est pas que le confinement qui empêche un certain cinéma d'exister. Et ce week-end frénétique, c'est aussi l'occasion de se retrouver, de se remettre à prendre en main les questions de pourquoi on fait des films, de qu'est-ce que c'est de faire des films et comment ces films on peut les faire exister, se battre pour qu'ils aient une légitimité, se battre aussi pour qu'ils puissent avoir accès à quelques financements, parce que c'est très dur de financer ces films-là, qu'ils soient documentaires, de fiction expérimentale, au-delà de la question du genre, quoi, c'est-à-dire des films qui n'ont pas une grande visibilité, qui ne pourront pas amener un grand public, des films qui sont faits pour quelques personnes. Alors, il va y avoir un week-end à la fin du mois d'août ou la première semaine de septembre pour réfléchir à tout cela. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Et de cette émission Enquête de cinéma, qui sera la dernière émission où on parlera pas trop de cinéma. On va reprendre nos émissions à Radio Galère, avec toute l'équipe en collectif, à pouvoir reparler de cinéma, à enquêter sur c'est quoi le cinéma. Je vais terminer par une petite lecture d'une lettre de Michel Butel à Robert Kramer, pour un peu conclure cette aventure de confinement et déconfinement. Existe-t-il jamais une raison sérieuse de faire ce que l'on fait ? Oui, une raison, une seule, l'état du monde. Une raison de s'insoumettre ? Oui, l'état de nos sociétés. Une raison de filmer ? Oui, l'état du cinéma. Une raison d'éditer ? Oui, l'état de l'édition. Existe-t-il jamais une raison plus personnelle et d'autant plus sérieuse de faire ce que l'on fait ? Oui, une raison, une seule, le désir. Une raison de se tuer ? Oui, le désir de disparaître. Une raison de vivre ? Oui, le désir de tout. Et je vous laisse avec une dernière chanson de Marlène Dietrich, « Où vont les fleurs ?» de 1962. C'était une émission Enquête de cinéma sur Radio Galère 88.4 et que vous pouvez trouver en podcast sur le site internet derive.tv où il y a toutes les émissions Enquête de cinéma. Je vous souhaite un bon déconfinement en ayant hâte que la vie puisse reprendre, mais avec une grande appréhension de qu'est-ce que cela veut dire, la vie va reprendre. Bonne soirée et à bientôt.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe, qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons, se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais?